France Musique. Musicopolis. Hollywood et Genève, 1948. Lettre du chef Ernest Ansermet au compositeur Igor Stravinsky, Genève, 20 novembre 1948. Mon cher Igor, je voulais vous écrire de Milan, mais j'y ai eu en moyenne 4 répétitions par jour, 2 d'orchestre et 2 de chœur, et le temps m'a manqué. Pourtant, je tenais à vous dire combien j'ai été heureux que les circonstances me permettent de donner la première de votre messe en Europe. L'exécution de Milan, qui a été suivie par beaucoup de vos amis, a été aussi bonne qu'elle peut l'être quand les voix supérieures ne sont pas des enfants et quand ces voix sont italiennes, pliées au bel canto et invinciblement portées à faire de l'expression. Je puis seulement vous dire que chanteurs et instrumentistes, et aussi le chef, ont fait de leur mieux. En marge, note manuscrite de Stravinsky, j'espère bien. Lettre de Stravinsky à Ansermet, Hollywood, 27 novembre 1948. Mon cher Ansermet, votre lettre du 20 novembre de Genève m'arrive aujourd'hui. Hélas, elle ne contenait rien que je n'ai déjà su par d'autres. Quel dommage que cette messe, conçue dans la tradition modeste des motets flamands, avec un petit chœur, enfants et hommes, ait dû avoir sa première à la Scala de Milan. Cet endroit somptueux est bien le dernier auquel on aurait pensé pour cette musique. Et comme j'aurais compris que dans des conditions aussi peu convenables, vous ayez renoncé à cette exécution. Si regrettables qu'aient été ces circonstances, j'aurais du moins aimé que vous me fassiez part de l'accueil du public et de vos réactions personnelles. C'est seulement le 8 février suivant, 2 mois et demi après l'échange de lettres que je vous lisais à l'instant, qu'Ernest Ansermet répond à Stravinsky. Comme on peut s'en douter, s'il n'a rien dit tout d'abord, c'est qu'il a de sévères réserves sur la messe. Il n'y trouve pas son compte. Il pense qu'en tant que croyant qui veut rendre hommage à son Dieu, Stravinsky aurait dû laisser faire et s'abandonner davantage. Pour ce qui est de la création de la messe de Stravinsky à la Scala, Ansermet se défend, arguant que c'était une opération de l'éditeur pour la presse, que l'acoustique était excellente et qu'après tout, la Scala n'est pas plus indigne que le New York Town Hall où justement Stravinsky donne l'œuvre en février 49. Écoutons-là, c'est le premier enregistrement dirigé par Stravinsky de sa messe, réalisé les 24 et 25 février 1949, juste la veille de la création américaine à New York. On entend non pas des voix d'enfants, comme il les souhaite dans sa lettre à Ansermet, mais des voix d'adultes avec un vibrato assez présent. On n'est certainement pas très loin ici du cœur de la Scala, invinciblement porté à faire de l'expression, comme le regrettait Ansermet. Le 20 février 49, moins de deux semaines après avoir avoué à Stravinsky qu'il n'était pas fou de sa messe, Ernest Ansermet lui réécrit de Londres. Tout a changé. « Mon cher Igor, je viens de diriger de nouveau votre messe, deux fois de suite hier soir au BBC. Et cette expérience est telle qu'il faut que je vous la rapporte, car elle a mis au clair toute l'impression que m'avait laissée l'exécution de Milan. Quand vous entendez jouer quelque chose sur un mauvais instrument, vous vous rendez bien compte que l'effet est défectueux, mais vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'aurait donné un bon instrument. Je n'ai rien demandé d'autre aux musiciens du BBC que ce que j'avais demandé à ceux de Milan. Mais ici, j'ai obtenu ce que je demandais. Et alors, je dois vous le dire, et j'ai hâte de vous donner ce témoignage. L'effet de votre contrepoint, de vos dispositions formelles, de vos dispositions instrumentales est absolument convaincant, lumineux et d'une plénitude absolue. » Voici donc le Kyrie de la messe de Stravinsky dans une version beaucoup plus légère que celle enregistrée par le compositeur lui-même lors de sa création américaine à New York en 1949. On peut peut-être imaginer que c'est une interprétation de cet ordre qu'il entendait lorsqu'il a composé l'œuvre. Mais quel était son projet ? Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1944. Stravinsky vit aux États-Unis depuis le début de la guerre. Après quelques mois passés sur la côte Est, il s'est installé avec son épouse Vera à Los Angeles. Ils habitent sur les hauteurs de Hollywood, dans une petite rue sinueuse qui monte dans la colline. S'il a pu acheter une maison, le compositeur a été confronté néanmoins à de sérieuses inquiétudes quant à ses revenus. Avec la guerre, ses droits d'auteur européens ne lui arrivent plus. Et les États-Unis n'ayant pas signé les accords de copyright, il ne touche plus grand-chose. C'est pourquoi il répond à quelques commandes très diverses. Hollywood étant la patrie du cinéma, Stravinsky est amené à participer à quelques musiques de films. On le demande par exemple pour un film à sujet russe, mais qui sera abandonné. Le compositeur recycle donc son scherzo à la russe pour grand orchestre. Autre commande improbable du cirque Barnum, une danse pour son éléphant vedette nommé Modoc. C'est le chorégraphe Georges Balanchine qui négocie avec Stravinsky pour la Circus Polka. Pour qui ? Demande le compositeur. Pour des éléphants. Combien ? Beaucoup. Quel âge ? Jeune. S'ils sont jeunes, j'accepte. Stravinsky répond aussi à quelques commandes de ballet pour des danseurs humains, comme les scènes de ballet qu'il compose pour Broadway et qui seront données dans une revue, mais seulement en fragments. L'impresario avait proposé à Stravinsky de faire réorchestrer la pièce, de manière à obtenir un succès sensationnel, mais le compositeur avait décliné, répondant qu'il se contenterait d'un grand succès. À côté de ces quelques commandes assez légères, disons, Stravinsky compose aussi quelques œuvres de plus grande dimension, comme la symphonie en trois mouvements pour l'Orchestre Philharmonique de New York. Il donne des concerts, il dirige sa musique, mais étant considéré comme un compositeur très moderne, les engagements sont tout de même limités. Il enregistre quelques-unes de ses œuvres, le Sacre du printemps dès 1940, il donne quelques leçons, mais il n'aime pas enseigner. Lorsqu'il obtient la nationalité américaine en 1945, il se lance dans un grand programme de révision de ses œuvres anciennes pour son nouvel éditeur états-unien, Boosey & Hawkes. Ainsi, il pourra toucher à nouveau des droits d'auteur. D'une manière générale, il vit paisiblement à Hollywood. Dans l'un des livres qu'il a co-signé avec son ami Robert Kraft, Stravinsky raconte qu'un jour de 1942 ou 43, dans un magasin d'occasion de Los Angeles, il trouve un recueil de messes de Mozart. « Lorsque je jouais ces délicieuses œuvres rococo opératiques, je sus que je devais écrire une messe à moi, mais une vraie. » Stravinsky a été élevé dans la religion orthodoxe, et si pendant longtemps il n'a guère été pratiquant, du moins est-il revenu depuis 1926 à sa religion première. En 1926, il est au début de son amitié avec le philosophe catholique Jacques Maritain. Il a lu son livre « Art et scolastique » qui plaide pour que les artistes reviennent à l'idéal médiéval de l'artisanat, humble et anonyme. Quelques œuvres spirituelles vont suivre, des prières, un Notre Père, un Ave Maria, la symphonie de psaumes. C'est seulement en 1944 qu'il se met à sa messe. « Ma messe », dit Stravinsky dans un entretien, « est liturgique et presque sans ornement. En mettant le credo en musique, j'ai voulu seulement préserver le texte d'une manière particulière. On compose une marche pour aider des hommes à marcher. Ainsi, avec mon credo, j'espère fournir une aide pour le texte. Le credo est le mouvement le plus long. Il y a beaucoup à croire. » Une fois qu'il a commencé une œuvre, écrit Robert Kraft, son ami et quasi-secrétaire, Stravinsky suit la routine d'Apollon. Dans ces périodes, je crois qu'il ne se sépare jamais réellement de sa pièce de travail, même quand il en est matériellement absent, car il mange à heure fixe, fait la sieste après le déjeuner et prend le thé l'après-midi. Dans ces périodes de composition, « emploi du temps » est l'un de ses mots favoris. Il y a un emploi du temps pour composer, un autre pour la santé, selon l'heure, le jour, le mois, l'année. Après avoir couché sur le papier le Kyrie et le Gloria de sa messe à la fin de l'année 1944, Stravinsky est obligé de s'interrompre pour travailler sur d'autres œuvres, des commandes. C'est qu'en effet, exceptionnellement, la messe n'est pas une commande. C'est pour répondre à sa propre aspiration qu'il a désiré la composer. Il l'a conçue non dans le rite orthodoxe, qui n'accepte pas les instruments, mais dans le rite catholique. Et il a choisi un ensemble instrumental inouï. Deux quintettes avant, un de bois, l'autre de cuivre. C'est seulement en mars 1948 que Stravinsky va achever sa messe. À cette époque, il s'intéresse beaucoup à la musique très ancienne, Renaissance et Moyen-Âge. Il lit des partitions de Monteverdi, de Machaut, de Jacopo da Bologna. Les spécialistes pensent qu'il a pu être inspiré par le style de l'Ars Nova et les recherches médiévales, qui auraient suscité cette écriture si particulière, souvent taxée d'austérité. Je vous propose une autre vision de sa musique, grâce à une remarque de Robert Kraft. Stravinsky, écrit-il, est saisi d'une répulsion physique à la vue d'un morceau de viande trop gras, et l'odeur de la graisse lui donne des crises de colère. Une réaction physique identique se produit lorsqu'il est submergé par une musique trop grasse, par trop de corpulence orchestrale. Voir Stravinsky manger fait comprendre pourquoi il dit que sa musique est uniquement faite d'os. Cela fait aussi comprendre pourquoi il exige qu'on la joue secco, non vibrato, sans expressivité. Agnus Dei, la fin de la messe d'Igor Stravinsky, qu'il a dirigée pour la deuxième fois à Hollywood en juin 1960 avec The Columbia Symphony Woodwinds and Chorus. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Levasseur pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.